Micro-cravate.
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 Micro.
Micro-cravate.
Micro-cravate.
Vous écoutez Micro-cravate, l'émission de reportage et création sonore qui se balade entre Bruxelles et Montréal. Aujourd'hui, on retourne dans les mondes souterrains. Métro, musiciens et œuvres d'art se croisent pêle-mêle dans les artères profondes de la ville. Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de choc pour ce 28e numéro de Micro-Cravate, avec vous Anna Massé et Gauthier Piatek. Salut Gauthier.
Salut Anna, bonjour à tous, nous sommes le dimanche 20 mars et aujourd'hui on plonge dans les entrailles de Montréal.
Que nos esprits s'épanouissent.
On commence notre excursion underground en compagnie de Lou Lawrence, de son vrai nom Lorraine, une chanteuse originaire de Toronto qui a fait résonner sa voix l'année passée dans les couloirs du métro. Anna, tu es allée à sa rencontre.
Oui, et pour resituer un peu le contexte, en arrivant à Montréal, j'ai été surprise de constater la qualité et la variété des artistes qui faisaient du busking, c'est-à-dire qui se produisaient en rue, aux abords des stations ou dans les souterrains. Mais rapidement, j'ai découvert qu'il s'agissait en fait d'un petit monde codifié, et surtout que tous les musiciens n'avaient pas accès au programme officiel Les Étoiles du Métro. En rencontrant Lou Lawrence, j'ai voulu en savoir un peu plus sur cette communauté d'artistes et qu'elle me raconte son parcours, son expérience en tant que chanteuse dans un environnement si particulier.
Avant, je vivais à Victoria, puis de là-bas, j'ai fait du busking dans la rue durant les dernières quelques mois que j'étais là. C'était un peu bizarre parce qu'à l'époque, je ne jouais pas mon instrument, alors c'était a cappella. Ce qui veut dire que ce n'était pas évident pour le busking parce que les gens prenaient ça vraiment comme j'étais une femme folle qui chantait dans la rue. Ils ne comprenaient pas que c'était du busking. Ils pensaient que c'était juste comme un petit moment de psychose ou quelque chose comme ça. Mais c'était le fun. Enfin, j'aime ça beaucoup, l'idée de la musique dans la rue et enfin, dans la ville. Moi, quand je croise la musique dans la rue, je suis super contente, alors je voulais faire partie de ça. J'ai décidé de commencer à jouer dans le métro ici pour comme, faire une petite évolution dans ma musique et aussi pour me poser un petit défi. Les premières quelques fois que je l'ai fait, je ne faisais pas partie du programme. Alors, ce qui veut dire qu'il faut se présenter durant la journée, trouver le petit morceau de papier qui est caché en arrière de petites lyres dans le métro qui montre là où on a le droit de chanter.
Donc, tu veux dire un petit livret où tu peux t'inscrire pour pouvoir jouer dans le métro et il est caché quelque part.
C'est pas si mystérieux que ça, mais il y a un petit espèce de genre pancarte sur la mur. C'est une image d'un lyre. Et en arrière du lyre, il y a comme un petit feuille de papier. Souvent, c'est juste un billet de métro qui est coincé entre le pancarte et le mur. Okay. Puis là, tout le monde écrit son nom, genre, OK, 17h, ça sera Jim, puis à 19h, c'est Frank, puis whatever. Puis genre, la première fois que je l'ai fait, c'était correct, mais j'ai pas beaucoup gagné. Mais j'étais super contente de le faire parce que c'est super bizarre. T'arrives, puis t'as l'impression que tout le monde est là pour se déplacer, alors que toi, t'arrives et tu t'installes. Alors, ça fait vraiment bizarre comme tu brises les règles du métro ou quelque chose, parce que toi, tu vas pas bouger, t'es là, ça c'est la destination, c'est pas le voyage, là. Alors, tu t'installes, puis, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu gênant de comme m'installer, puis ouvrir ma caisse, puis comme sortir l'instrument, puis il faut s'accorder d'abord, puis après, il y a des gens qui arrêtent pour regarder, ben, qu'est-ce qu'elle va faire, puis toi, tu commences à jouer, puis je trouvais tout ça un peu plus difficile que prévu. Et c'est pour ça que je l'aimais aussi, parce que je trouvais que c'était vraiment un bon défi, si ça me gênait autant que ça, ça devrait être un bon pratique. C'était un peu difficile parce que souvent j'arrivais quelque part puis il y avait pas de place toute la journée, puis des fois je baladais toute la journée puis je trouvais pas de spot pour jouer, puis des fois tu joues durant 30 minutes puis il y a quelqu'un qui arrive qui te met à la porte parce que eux autres ils ont signé sur la liste puis toi t'es pas sur la liste, alors des fois c'était un peu difficile comme ça. Puis après, j'ai postulé pour faire le programme Les Étoiles du métro. Et en fait, cette année-ci, c'était la deuxième fois que j'ai postulé. La première fois, c'était l'année passée. Ça a super mal passé. Mais
ah ouais,
vraiment très, très mal passé. Ben, mon premier ukulélé, c'était un ukulélé baryton que j'ai acheté sur l'Internet, sur Kijiji. C'est super joli, mais c'était quand même pas meilleure qualité. Alors, je suis arrivée pour l'audition. J'avais un petit accordeur de marde, là. Avant de monter sur la scène, pour l'audition, j'étais dans une petite salle, puis j'essayais d'accorder mon instrument. Il y avait un gars qui est arrivé. Alors, il voulait parler, puis il n'arrêtait pas de jouer sa guitare. Alors, ça a fucké mon accordeur. Ça finissait par moi avec un instrument vraiment pas bien accordé. Je monte sur la scène, je commence à jouer la première chanson. J'entends que c'est pas bien accordé. Je peux rien faire parce que j'ai 2 minutes pour l'audition, alors je continue. Mais tu sais, ça fait mal aux oreilles quand c'est vraiment pas accordé. Alors j'ai complètement perdu ma confiance en moi. Là, j'étais vraiment pas contente. Puis je jouais très mal. Ils m'ont coupé après genre 30 secondes pour la première chanson, 30 secondes pour la deuxième chanson. Puis une fois que c'était fini, le juge, il m'a fait... Écoute, c'est quand même important d'arriver avec un instrument accordé. Hein. J'étais, ouais, non, je sais, j'ai pas fait exprès, là, là. Il fait, non, mais c'est correct. Puis moi, je savais tout de suite que j'ai pas eu, quoi. Je savais que que ça n'a pas bien allé. Mais la chance qu'on a fait les auditions dans un bar, alors je me suis installée au bar, puis j'avais un regard si pitoyable sur ma face que quelqu'un m'a offert des shooters. Alors, je me soulageais un peu cette soirée-là au bar, puis... Enfin, j'ai pas eu un spot dans le programme cette année-là. Puis,
c'est qui les juges, ces fameux juges?
Alors, ce que je comprends du programme, c'est que c'est des musiciens qui ont créé le programme. Puis ils ont fait comme une espèce d'accord avec le STM. Mais c'est vraiment cool parce que c'est ça. C'est vraiment comme quelque chose créé... genre, je sais pas comment dire en français, mais grassroots. T'sais. C'est vraiment les musiciens qui ont créé ça pour les musiciens, pour comme... se faire une petite place dans la ville, quoi. Cette année-ci, j'avais beaucoup plus pratiqué, j'avais beaucoup plus joué dans le métro. Je sais pas, j'avais une bonne attitude. Je suis arrivée, je me suis dit, ben, comme fuck it, je suis là, je vais faire ce que je peux, puis je vais donner tout ce que j'ai. J'ai fait quelques petites fautes, mais je riais, j'avais une bonne attitude, je souriais tout le long, puis ça allait quand même bien. Puis je sais que... Je sais que ma voix, c'est quand même différent de ce qu'ils font les autres musiciens dans le métro. Il y a beaucoup de musiciens qui maîtrisent vraiment leurs instruments, mais il n'y a pas énormément de chanteurs. Il y en a quelques-uns, mais pas énormément. Alors, quand je parlais après avec les juges, ils m'ont dit que c'était vraiment cool, c'était un peu différent. Ils ont bien aimé la façon dont ma voix résonne dans l'espace. Mm-hmm. Parce que quand tu es dans le métro, c'était toujours dans les couloirs bizarres ou les espaces très bizarres. Alors, cette année-ci, c'était un succès.
Ça se passe, les relations entre artistes du métro?
Plutôt bien. C'est un peu comme les collègues de travail, tu sais. Il y a un petit côté de « Ah oui, enfin, on fait la même chose, on se comprend, on peut parler de nos expériences de travail, entre guillemets. » Mais en même temps, je sais pas, il y a des petites choses bizarres aussi. Genre, on se parle pas de combien on gagne.
Mm-hmm. Ça, c'est tabou?
Oui, je pense. Pour moi, c'est tabou. Tu sais, comme... Parce que d'un côté, t'es super curieux. Tu veux savoir si tu gagnes beaucoup plus ou beaucoup moins que les autres. Mais en même temps, tu veux pas savoir. Parce que, genre, ça va... Je sais pas. Pour moi, je pense que ça va comme vraiment pourrir le truc. Si je savais que, oh my God, je gagne... Enfin, la moitié de ce qui gagne les autres, ça... Je pense que je serais pas contente de vraiment être certaine de ce qu'on gagne. Puis après... Tout le monde a des chansons qui sont plus rémunérées que d'autres, tu sais. Puis des fois, on va parler, genre, autour des noms des chansons, mais on va pas nommer les chansons, parce que des fois, il y a un petit comme, « Ah, oh, mais je veux pas partager celle-là, là, parce que je gagne beaucoup avec celle-là, et je veux pas qu'il y a tout le monde qui joue ça. »
C'est quel type de gens, en fait, que tu croises dans le métro?
Les musiciens ou les...
Ouais, les musiciens.
J'ai rencontré des gens vraiment différents. Il y en a quelques-uns qui sont des étudiants qui font ça, genre, temps partiel avec leurs études. Il y en a d'autres qui sont des musiciens professionnels qui font ça juste pour, comme, gagner un peu plus. Il y en a d'autres qui font ça temps plein, là, genre, qui vont jouer 2-3 fois par jour, pas mal tous les jours de la semaine. Mais c'est ça, il y a des gens vraiment différents et assez intéressant. Je trouve qu'il y a quelque chose assez intéressant dans les gens qui veulent jouer dans le métro, parce que c'est quand même les pires circonstances de performance du monde, là, parce que t'as des gens qui... Enfin, t'as souvent des gens sans-abri qui vont crier tout le long de ton performance. Des fois, t'as des jeunes qui sont bourrés, qui vont crier juste pour crier. Des fois, t'as des vieilles mamies qui vont couvrir les oreilles parce que « Oh non, c'est trop fort, j'aime pas! » Des fois, t'as des enfants qui font ça aussi. Alors, c'est vraiment bizarre parce que personne n'est là pour t'écouter. Tout le monde, ouais, est là pour se déplacer. Alors, ça crée des performances assez spéciales. Alors, pour vraiment vouloir faire ça, genre, 4 fois par semaine, 4 à 10 fois par semaine, il faut d'abord avoir comme, comment dire, a thick skin, comme un...
Ouais, il faut avoir un peu la peau dure et...
Exact, c'est ça, il faut... Et aussi, il faut vraiment aimer ça, jouer de la musique, parce que... Il y a des moments où il n'y a personne qui t'écoute, alors il faut que tu joues pour toi, que tu continues pour toi. Alors, tu sais, comme moi, j'ai quelques chansons que je garde pour ces moments-là où t'es un peu comme perdu, puis t'as l'impression que personne t'écoute. Puis il faut avoir quelque chose à jouer qui va te motiver, tu sais. Alors, c'est ça.
À l'inverse, tu penses que t'as aussi des bonnes rencontres?
Oui, oui. Enfin, des fois, t'as des moments super cool aussi, genre... Je sais pas c'est quoi le meilleur, parce qu'on a plein d'expériences bizarres aussi. Et bizarre, des fois, c'est la meilleure. Juste parce que c'était si inattendu. Oh, j'ai déjà essayé de raconter cette histoire en français. Ça finit pas toujours très bien, mais je vais essayer. je jouais dans le métro, c'était Place des Arts. Puis il y avait un homme que j'avais vu déjà dans la rue, qui demandait de l'argent dans la rue, qui venait dans le métro. Puis il a écouté un peu la musique, puis il me fait un gros sourire et tout. Puis il arrête directement devant moi, puis il met sa main dans ma...
Ton étui?
Mon étui d'instrument-là. Il met sa main direct dans l'étui, tout plat contre le plancher, là. Puis, bon, ça m'a jamais arrivé que quelqu'un a volé des affaires de moi pendant que je joue là, mais on entend souvent des précautions, genre, fais attention, il y a des voleurs partout, puis blablabla. Alors là, j'ai un homme que j'ai vu dans la rue demander de l'argent, qui met sa main dans mon étui, puis je commence à me dire, oh, fuck, qu'est-ce que je vais faire, comme... Et il restait là, c'est ça qui était bizarre, il bougeait pas, il laissait sa main juste plat dans l'étui, puis je fais, oh my god, ok, comment est-ce que je vais gérer cette circonstance? Est-ce qu'il est vraiment en train de comme, faire le vol le plus lent du monde, là, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe, quelque chose d'autre qui se passe? Finalement, enfin, il garde la main dans l'étui, et il me fait un gros sourire, puis moi, je fais comme un demi-sourire, un peu confus, là. Puis il se met de... enfin, il bouge sa main dans l'étui, puis il se met debout tout de suite, puis il me fait un autre sourire, puis il s'en va. Puis je regarde dans l'étui, et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis deux pièces de 10 cents dans l'étui, puis il voulait pas que je voyais qu'il me donnait si peu d'argent, alors il avait mis sa main pour couvrir son dent, puis pour comme le mélanger avec les autres. Alors, moi, je pensais que j'étais en train de me faire voler mon argent, alors que c'était tout à fait le contraire. Il voulait me donner quelque chose, mais il voulait pas que je sachais qu'il me donnait si peu. Alors ça, c'était un moment assez émouvant pour moi, parce que ben, c'était juste complètement inattendu. Puis, genre, de voir quelqu'un qui avait si peu à donner, qui voulait quand même donner quelque chose... Je trouvais ça vraiment très, très spécial comme moment. Quand je joue, j'essaie de faire genre moitié chanson originale et moitié les reprises, parce que avec les reprises, souvent on va gagner un peu plus d'argent si c'est les chansons que les gens reconnaissent. Parce que, tu sais, pour les gens qui rentrent du boulot, si tu joues une chanson qu'ils aiment bien, il y a des meilleures chances qu'ils vont arrêter de te donner quelques sous, seulement pour le fait que tu joues quelque chose qu'ils aiment bien. Ça, peu importe comment tu le joues, c'est juste « Ah, oh, j'adore ce tune-là! Ah, oh, ouais! » Alors pour moi, genre « Sitting on the Dock of the Bay » de Otis Redding. Alors souvent, quand je joue celle-là, j'ai les gens qui vont arrêter à côté de moi pour... juste pour me montrer qu'ils connaissent les paroles. Alors il y a des gens qui vont arrêter. Je sais. Watching the tide! Juste à côté, t'es comme ouais, c'est celle-là, t'as bien compris. Dans le métro, ça crée une relation entre moi et la ville qui est super intéressante. Je vois tous les gens qui passent dans la ville en ce moment. Tu vois les touristes, tu vois les businessmen, tu vois les gens qui habitent dans la rue, tu vois les étudiants, tu vois vraiment tout le monde. Et tu as une petite interaction avec pas mal tous les gens de la ville.
Tu touches des gens en fait qui ne viendraient pas forcément voir tes concerts sinon.
Exactement, c'est ça. Puis après, je sais pas, comme je viens pas de Montréal à l'origine, mais moi, comme je suis folle amoureuse de cette ville, de jouer dans le métro, ça me permet de vraiment établir cette relation intime avec la ville, dans un sens. Genre, ça, l'autre jour, quand je jouais dans une galerie d'art, j'avais genre 3 ou 4 personnes qui m'approchaient après pour dire « Ah ouais, je pense que je t'ai vu dans le métro. Ah ouais, c'est toi qui étais là avec les cheveux dans le métro Place des Arts. » Je dis « Ouais, c'est moi avec les cheveux dans le Place des Arts. » Alors c'est cool, tu sais, de rencontrer les gens qui te reconnaissent pour la musique.
Et pour tes cheveux.
Et ça, c'est depuis toujours. Là. Ça, je peux pas changer. Quand j'étais très jeune, j'ai découvert que les gens vont toujours me reconnaître pour les cheveux. Le but pour moi, c'était toujours d'ajouter quelque chose avec les cheveux. Alors, si c'est musicienne avec les cheveux et non seulement grande fille avec les cheveux, déjà, c'est un succès pour moi. Wait,
Depuis cette interview, enregistrée il y a quelques mois, la carrière de Lou Lawrence a bien évolué. Certes, elle ne joue plus dans le métro, mais elle continue à se produire dans les bars de Montréal ou lors de festivals, et elle a même sorti un mini-album. Pour écouter ses chansons, il suffit de se rendre sur son Bandcamp ou sur sa page Facebook. Toutes les informations seront sur la page de l'émission.
Restons sous terre. Gauthier, tu t'es récemment pris à errer dans le dédale du réseau montréalais.
Oui, pendant 3 semaines s'est déroulé le festival Art Souterrain, un festival dont le but est de sensibiliser les voyageurs et autres navetteurs à l'art contemporain. Lors de ce festival, de nombreux artistes ont ainsi pris possession des galeries et passages souterrains de la ville de Montréal et ont installé leurs œuvres aux yeux de tous. Au cours de mes pérégrinations dans les différents passages souterrains de la ville, j'ai essayé de capter tous ces petits sons étranges et incongrus qui émanent des œuvres et de l'architecture.
On écoute.
savoir parfois sacrifier du temps aux choses importantes, voire essentielles, comme par exemple la cravate.
Pour terminer l'émission, on s'extirpe tout doucement à la surface de la Terre. Nous repartons sur les routes de Nouvelle-Zélande avec Sophie Poisson pour sa série mensuelle Sweet As. Ce second épisode est consacré à Cyril, un Français venu en octobre avec sa conjointe. Tous les deux, ils sont partis retrouver pendant un mois leur ami d'enfance établi au pays des Kiwis. Ensemble, ils se sont aventurés sur l'île du Nord et l'île du Sud pour un road trip en van. Cyril nous raconte son périple et les petites astuces à prévoir avant la grande aventure.
Islande,
Mexico,
Suisse,
Russia,
Ireland,
Angleterre,
China,
une fois le Canada,
Lithuania,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Sweden.
Surtout des pays européens, la Croatie, un petit peu l'Allemagne, l'Angleterre, l'Irlande, l'Islande, une fois le Canada et la Nouvelle-Zélande.
Et alors, est-ce qu'il y a un pays en particulier qui t'a marqué ? Est-ce qu'il y a un pays dont tu voudrais bien partager ton expérience ?
L'Islande, pour tous les panoramas, cartes postales, les glaciers, toutes les criques, les rivières, c'est très très naturel, très peu de monde. C'est vraiment authentique comme pays, quoi.
Et alors, tu es parti en Nouvelle-Zélande pour un road trip. Pourquoi avoir choisi ce moyen pour voyager ?
Ça permet surtout de voir, de faire le tour de tout le pays et vraiment d'être, de pouvoir jongler sur ce qu'on veut faire. On change comme on veut, on fait ce qu'on veut, suivant le temps aussi, on s'adapte. Et voilà, on va voir vraiment tout ce qu'on veut. On n'a pas besoin de se dire il faut qu'on soit à tel endroit, tel jour.
En quoi la Nouvelle-Zélande est un pays adéquat pour un road trip ?
Alors adéquat, on va dire que c'est surtout... On peut se poser assez facilement un peu partout. Après, un peu partout, il y a des restrictions, mais une fois qu'on a le van qu'il faut, on peut se poser à plein d'endroits, des endroits magnifiques d'ailleurs. Et puis voilà, et comme il y a plein de choses à voir de partout, au lieu d'avoir toujours une voiture, faire 3 ou 4 fois la même route pour aller voir plusieurs choses au même endroit, nous on s'y pose, on s'arrête et on campe à cet endroit.
Quels sont les éléments essentiels à prévoir pour un road trip ? Comment faut-il se préparer ?
Il faut déjà bien louer son van, histoire d'être sûr de pas que ça soit trop grand pour aller en ville, trop petit pour l'espace, que ça soit facile à vivre. Puis après savoir déjà un peu où est-ce qu'on va aller, sans connaître tous les points de chute, pour être sûr de rien louper au passage et de ne pas se dire « Ah bah là j'ai oublié quelque chose, il faut que je fasse marche arrière quoi. »
Et justement, tu bases tes recherches sur quel type d'informations ?
Principalement les guides touristiques qui sont relativement bien faits, même si pour la Nouvelle-Zélande il n'y a pas énormément de choses, on va dire en français. Sinon après Internet est pas mal du tout pour savoir les beaux endroits qu'il y a à voir, les forums pour voir ce que les gens en pensent aussi, parce que c'est pas toujours ce que nous on veut voir aussi. Donc voilà, mélanger un peu toutes ces informations, ça permet de savoir exactement ce que nous on veut voir, quoi, ce qui va nous intéresser.
Nous sommes présentement à Dunedin. Quel parcours t'a amené jusqu'à cette ville ?
Donc on est parti d'Auckland, on a fait le Coromandel, on a fait Rotorua en descendant, le Tongariro Crossing, Wellington. Ensuite, nous sommes arrivés à Picton sur l'île sud. Nous avons fait le... J'ai mangé le nom Abel Tasman, le parc national d'Abel Tasman, c'était magnifique. Les Marlborough pour faire tous les vignobles. Ensuite, nous sommes allés essayer d'aller voir les baleines juste au nord de Christchurch. Ensuite, on est reparti de l'autre côté, on est allé à Westport et Greymouth. Après, nous sommes descendus vers le Fox Glacier. Donc ensuite, nous sommes allés à Queenstown, on a fait le Milford Sound, le sud de l'île sud, toute la côte sud, et on est arrivé à Dunedin.
Et alors, qu'est-ce qu'il y a à voir à Dunedin ?
À Dunedin, l'ancienne ville, la gare, avec les vieux immeubles tout autour. La rue, une superbe rue à 35% d'inclinaison, qui est vraiment pas mal à faire. Et puis plein de petits bars sympas.
Et alors, dernière question, quelle va être ta prochaine destination?
Ouais, je sais pas trop pour le moment, sûrement la Réunion parce que on a des amis là-bas. Donc ouais, sûrement ça, et puis on va voir après l'année prochaine, il n'y a encore rien de fixé.
C'était Micro-Cravate. On salue les journalistes et créateurs sonores fidèles au micro, ainsi que tous les rats d'égout. Micro-Cravate, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve le 17 avril. D'ici là, retrouvez les podcasts de l'émission sur choc.ca et plus de reportages sur le site microcravate.com. À 17h, vous avez rendez-vous avec Mutation. Bonne fin de semaine sur Choc.
I need...
Bon dimanche.
Okay.
Micro-Cravate.
Micro-Cravate.